la passe et il récupère marqué.
Et la frappe et l'arrêt.
Et ça passe à
côté. Et le poteau.
Oui, c'est le but.
Et le goal qui est intercepté.
Vous écoutez Quartier des Sports.
Quartier des Sports.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez notre émission Quartier des Sports sur Quartier des Ondes. Aujourd'hui, c'est le format dédié au handicap en collaboration avec le club de Rennes Handisport. Pour cet épisode, on va parler d'athlétisme et je vous emmène au gymnase des Hautes-Ourmes pour suivre un entraînement d'athlétisme en fauteuil, en compagnie de Oksana et de Régis, son entraîneur. Ça, c'est pour la première partie de l'émission. En seconde partie, je vous propose un moment de discussion dans nos studios avec Antoine. Antoine, c'est un jeune athlète de 19 ans qui s'entraîne avec des valides, mais qui est signé au club Handisport à cause d'un handicap au bras droit. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça en deuxième partie d'émission. Sur ce, j'entre dans le gymnase des Hautes-Ourmes. À tout de suite.
Are you the one who's on the radio station?
Quartier des Ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro?
10 secondes. 5, 4, 3. C'est dur.
Me voilà sur le terrain d'entraînement, donc dans la salle de réunion plutôt. Je suis avec Régis qui est l'entraîneur, ainsi qu'avec une athlète qui va se présenter juste après. Alors je vous laisse, je t'ai déjà un peu présenté Régis, mais je veux bien que tu redonnes ton nom, ta fonction et que tu expliques l'activité sportive que tu encadres aujourd'hui.
Ah, du coup, moi, c'est Régis Levrel. Je suis chargé de mission au comité départemental handisport d'Ille-et-Vilaine. Et j'encadre en effet l'athlétisme fauteuil avec Oksana et Jalel, qui sont les athlètes. Je les encadre une fois par semaine, soit le mardi, soit le jeudi matin. Donc là, on est en effet dans la salle de réunion du handisport Rennes Club. Ça dépend des conditions météo qu'il y a à l'extérieur, mais on fait l'activité sur rouleau avec les fauteuils quand, en effet, on ne peut pas aller sur la piste de Bricchini.
Merci, c'est vrai qu'il fait froid en ce moment. Maintenant, c'est au tour d'Oksana, dont on a donné déjà ton prénom. Est-ce que tu peux me dire, te présenter rapidement, donc du coup ton prénom, ton âge, et depuis combien de temps tu pratiques ce sport ?
Je m'appelle Oksana, j'ai 26 ans et je fais de l'athlétisme depuis 5-6 ans, il me semble. J'ai fait une compétition il y a 2 ans, les championnats de France. J'ai fini deuxième. Et donc voilà, là, c'est donc les entraînements d'hiver. Donc c'est en effet à l'intérieur, sur rouleau. On attend les beaux jours pour repartir sur les pistes. Et donc sinon, à côté de ça, pour un peu performer en athlétisme, j'ai fait du crossfit pendant plusieurs années. Du coup, ça me permettait de muscler pour être meilleur dans ce sport-là.
Est-ce que du coup, tu parles de compétition, est-ce que tu as des objectifs aujourd'hui plutôt en compétition? Est-ce que ça reste du loisir? Comment tu vois un petit peu la chose?
Alors pour cette année, ça reste du loisir parce que l'année dernière, on s'était un peu mis en tête et on avait commencé à pratiquer en fait beaucoup plus de séances parce qu'il y avait un objectif de faire les Jeux Olympiques de Paris. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas ma catégorie très spécifique, handicap, à Paris, donc en fait du coup bah, ça ne servait à rien que je reste avec cet objectif là du coup. Et donc là je me laisse un peu de temps en loisir peut-être pour après reprendre de la compétition, je ne sais pas trop pour l'instant, mais voilà, on reste tranquille sur les séances.
Est-ce que tu peux parler bien sûr de ce que tu veux en dire de ton handicap et du coup un peu d'expliquer un peu ta catégorie, comment ça se passe, parce que je sais que c'est un petit peu compliqué, enfin il y a beaucoup de catégories en fonction des handicaps, donc voilà.
Oui, il y a beaucoup de catégories. Donc moi, j'étais en tétraplégique. Je suis tétraplégique. Et donc c'est la catégorie T52. Donc il y a peu de personnes aussi dans le monde dans cette catégorie qui pratiquent ce sport à haut niveau. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'elle a disparu. Donc moi, j'ai eu ma tétraplégie quand j'avais 16 ans. Donc c'est une inflammation de la moelle épinière. Donc c'est venu un petit peu du jour au lendemain comme ça. Et voilà, et du coup, j'avais mis un peu de temps avant de reprendre le sport parce que je ne savais pas trop quel sport était adapté à mon handicap. Donc, plus précisément, la tétraplégie, c'est une atteinte aussi des jambes, mais aussi au niveau des membres supérieurs. Donc moi, j'ai mes mains qui sont touchées, mais je garde de la force dans les bras. Et du coup, je n'ai pas la totalité de mes abdos. Il m'en manque pas mal. Donc voilà, moins d'équilibre au niveau du tronc. Donc c'est vrai que pour faire du sport, faut bien le choisir. Et je ne sais plus comment j'avais découvert l'athlétisme, peut-être par une présentation d'handisport. Et du coup, je cherchais un sport qui était cardio. Et du coup, j'ai essayé celui-là et je me suis dit, bah, c'était ça qu'il me fallait. Je me sentais quand même assez libre. Enfin, je me sens toujours libre dans ce fauteuil-là. On peut aller vite, il y a des bonnes sensations. Et puis surtout, t'es fatigué à la fin de la séance. Ouais. Donc, c'était ça que je cherchais vraiment.
Tu faisais donc du crossfit. Le crossfit, c'était avant tes 16 ans, du coup, ou après ?
C'était après. J'ai commencé peut-être le crossfit 4 ans après mon accident, 4-5 ans, vers là. Et non, avant, en sport, moi, je faisais de la danse à haut niveau. Et donc, bon, bah, du coup, c'était plus compliqué de le faire en fauteuil après. Donc, j'ai cherché vraiment des sports différents. Tant qu'à changer, je voulais aller dans l'opposé.
Donc, tu étais déjà une grande sportive avant. Et donc, c'est ça qui t'a sans doute motivé à continuer, mais à reprendre. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment ça se passe, ton sport, l'athlétisme, du coup, en fauteuil, pour que les auditeurs visualisent bien sur combien de mètres, comment, enfin, voilà, moi j'ai eu un peu du mal à me situer.
Alors, pour pratiquer l'athlétisme en fauteuil, on a un fauteuil sur trois roues avec une... comment expliquer ça ? Une grande flèche, c'est un peu dur de décrire. On est plié en deux dans le fauteuil. Donc on avance avec les bras, on fait rouler avec les bras. On a vraiment le haut du corps collé au niveau des cuisses. Et donc... on fait avancer les deux roues avec nos bras. Et ensuite, il y a une flèche avec la roue avant, donc qui est assez grande, qui fait peut-être un mètre en tout devant. Et donc, c'est vraiment aérobique. Ce fauteuil, c'est pour vraiment aller vite. Et donc, moi, je pratiquais plutôt le sprint. On s'entraînait sur du 100 mètres, 100, 200, 400. Donc, pas trop les longues distances, mais on peut en faire. On peut faire des marathons et... aussi avec ce fauteuil-là. Mais du coup, moi, je préférais le sprint.
Du coup, plutôt une question peut-être pour Régis. Du coup, tu axes les différentes séances. Là, j'ai vu que du coup, tu faisais un exercice pour les bras, pour les épaules, j'imagine, où tu faisais tournoyer. Donc, je ne sais pas comment tu vas pouvoir m'expliquer un petit peu. C'est une corde à sauter qu'on fait tournoyer avec les bras. Donc, est-ce que tu peux expliquer déjà le premier exercice qu'on a vu? Est-ce que tu cibles les différents muscles? Donc il y a différents ateliers. Et comment ça se passe? Ça m'intéresse, on en parlera peut-être un peu après, mais sur les rouleaux.
Du coup, les exercices, on les varie, on les différencie pas mal, vu que c'est du loisir, donc il faut que ça reste très ludique aussi pour eux et un peu pour moi, il faut qu'on puisse s'amuser ensemble. Donc là, c'est vrai qu'Oksana faisait... un style de corde à sauter pour travailler justement sa résistance au niveau des membres sup et travailler aussi le changement de rythme par du fractionné, par une intensité qu'on varie selon l'exercice. Et après, sur le rouleau, on va retrouver un peu les mêmes exercices, sauf qu'on va rajouter justement cette partie technique sur la roue, ou avec la prise d'appui sur les mains courantes, d'accélération, d'un maintien de la vitesse, et voilà, comme un sprint, on faisait du sprint, on accélère, on maintient la vitesse, et on finit en vitesse maximum.
Le rouleau, ça ressemble un peu... Est-ce que dans l'idée, ça peut être un peu comme un rameur ?
Ouais, le rouleau, c'est entre le tapis de course et le rouleau pour un vélo. Sauf que là, le rouleau va avoir... deux parties, entre guillemets, où on va mettre les deux roues arrière dessus. Et du coup, ça va entraîner forcément le rouleau et ça va l'actionner, quoi. Voilà, c'est vraiment comme un rouleau de vélo, en fait. Sauf qu'il y a deux positions pour mettre les deux roues arrière.
Et dans de l'athlétisme en fauteuil, on imagine que c'est très cardio, très physique. Quel muscle ou section du corps est le plus sollicité ?
C'est vraiment les bras, les épaules, le dos aussi. Après, ce qui est mis en contrainte, comme disait Oksana, c'est qu'ils sont vraiment pliés en deux dans les fauteuils. Donc, niveau des abdos et des jambes, c'est aussi une position à tenir qui peut faire mal et qui peut avoir beaucoup de contraintes aussi, selon le type de handicap de chaque personne.
Bah, c'est vrai que la description dont tu m'en as fait, je me suis tout de suite dit qu'il fallait quand même une certaine souplesse pour se plier du coup, plier sur ses jambes.
Alors du coup, pour essayer d'expliquer la position, les genoux sont pliés totalement, les hanches également, comme ça le torse vient se poser sur les cuisses.
Allez, 3 minutes.
Du coup, là, on a Oksana qui est dans le fauteuil surélevé sur des rouleaux pour s'entraîner, comme on parlait tout à l'heure. Régis, si tu peux commenter. Là, je vois que, en fait, c'est, pour tourner les roues, c'est avec l'aide des pouces, c'est ça ?
Du coup, pour faire tourner les roues, en fait, Oksana a des gants dans chaque main qui met comme un coup de poing, en fait. Elle serre le poing. Et sur toute la partie haute de la main, c'est une partie en cuir dur où elle va venir en fait appuyer cette partie-là contre la roue, la main courante qui elle aussi est recouverte d'un cuir pour venir entraîner la roue. Donc là, Oksana s'échauffe un peu avant de partir sur une série où on va faire également du fractionné, un peu de fractionné avant de reprendre la piste. Et voilà. Alors du coup, le principe du fauteuil est un peu semblable au vélo. En fait, c'est vraiment une accélération qui va donner la propulsion au fauteuil, comme au vélo si on pédale très fort. Et après, on va avoir un mouvement pour garder cette vitesse de déplacement, en fait. Et on va devoir, bien sûr, réaccélérer pour regagner de la vitesse. Mais le fauteuil peut être comparé à du vélo.
Ouais, mais en fait, c'est le mouvement, il devient un peu moins ample quand tu gardes ta vitesse, c'est ça ?
C'est ça.
Et les freins, on s'en sert souvent ou pas ?
Alors, sur la piste, non, parce qu'il n'y a pas besoin de freiner. On voit, il y a un guidon, une sorte de guidon sur le fauteuil, où on s'en sert seulement sur route. Sinon, pour la piste, il y a une petite manette qu'on active, vu que sur la piste, il n'y a qu'un seul virage à gauche, qui est normalement d'un bon angle identique sur les deux virages. Donc on règle la manette. Comme ça, le sportif a juste à l'actionner à l'entrée du virage. Et comme ça, il garde un angle régulier tout le long du virage et l'enlève à la fin du virage pour retrouver une ligne droite.
D'accord, donc il continue en tournant, il continue d'utiliser ses deux bras à l'identique. Moi, j'imaginais du coup qu'il n'y aurait peut-être qu'une seule roue qui tournerait pour essayer de tourner.
Non, c'est vraiment le sportif arrive dans la ligne droite, donc il utilise ses deux bras. En une fraction de seconde, il active le petit guidon. Ça met un angle pour la gauche et comme ça, lui, il continue de rouler dans le virage. Sorti de virage, il a juste à retaper sur le guidon et puis c'est bon, ça revient en ligne droite.
Ok, quand même. Mais il faut taper précisément. Du coup, si tu te dévies un petit peu, ça peut être compliqué.
Ouais, après, il y a une différence. Hein. On peut toujours se décaler à droite ou à gauche, où là, justement, les sportifs sont habitués au fur et à mesure des entraînements à se régler, à revenir dans leur couloir. Alors, soit à l'aide des hanches, soit à l'aide de leur mouvement de bras, justement, ils reviennent, ils se repositionnent dans leur couloir, parce que c'est les mêmes règles que pour chez les valides. Ils ne doivent pas dépasser du couloir.
Allez, tu viens, voilà. Allez, tu récupères. Allez, vas-y, 10 secondes. Allez. Voilà, encore. Voilà. 5. Tu continue. Top.
Bravo encore. Et Régis, tu n'encourages pas trop. Hein, faut la...
Là, c'est pas fini.
Tu fais souffrir. Hein.
C'est
quoi comme piste
Là, c'était à bloc. Là, on descend d'une petite intensité. On fait 3 minutes encore. Et après, c'est 3 minutes en première.
Alors, comment tu te sens après cette séance ? Est-ce que tu as aimé ?
Oui, ça fait du bien parce que je me sens défoulée, en fait. Et c'est vraiment ça qui caractérise ce sport et ça, j'aime beaucoup. Et on sent que tout le haut du corps travaille, donc ça fait vraiment du bien. On réactive un petit peu tous les muscles et voilà, moi, je me sens bien après une séance d'athlétisme.
Donc c'est pour ça que tu fais du sport, c'est pour te sentir, c'est pour te défouler, ou c'est peut-être pour une autre raison, je sais pas.
Pour me muscler essentiellement, pour oui, enfin me défouler, ce soit aussi un exutoire, voilà, un petit peu psychologique ou autre, et puis voilà, pour aussi maintenir une bonne santé physique, parce que plus je fais du sport, plus je suis autonome aussi dans ma vie quotidienne. Et donc voilà, je dois avoir un entretien important si je veux réaliser toutes les tâches de ma vie.
C'était quoi le plus difficile dans cette séance ?
C'est de maintenir à une grande vitesse et pendant longtemps, pendant 3 minutes. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, de toute façon. C'est de pousser, d'essayer d'aller au max, mais en même temps de trouver un peu la vitesse, donc pas de croiser, mais la vitesse rapide, mais ne pas du coup descendre de ça et pendant un temps donné. Donc ça, c'est l'exercice qui est dur. C'est de jauger, en fait, la bonne vitesse.
Oui, là, c'est de... Il faut tout donner, mais pas trop quand même.
Mais moi, c'est ça que je pense avec ce sport où j'ai pas mal travaillé et où j'ai toujours du mal à trouver. C'est en effet, c'est est-ce qu'on se donne trop tout de suite ? Est-ce qu'on garde un peu pour maintenir jusqu'à la fin et faire les 2 heures d'entraînement ? Enfin, c'est toujours les questions que j'ai toujours actuellement.
Qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ta pratique pour progresser ? Enfin, genre un axe d'amélioration, un endroit où tu te sens un peu, où tu sens qu'il faudrait que tu travailles ?
Ah bah, ce serait de travailler l'explosivité et vraiment d'aller toucher mes limites. Je sais pas si je pense que je les ai déjà touchées, mais travailler puis de les dépasser encore plus, de voir vraiment de ressortir vraiment rouge en sueur de la séance, quoi. Je pense que c'est là où j'ai toujours envie de me préserver un peu pour, comme je disais avant, la faire au maximum et pendant longtemps. Donc voilà, je sais pas si je suis déjà allée au max du max.
Pour revenir un petit peu tout à l'heure quand tu me parlais des Jeux Paralympiques, je me suis posé une question, en fait, quand tu disais qu'il n'y avait pas assez de monde dans ta catégorie, est-ce que c'est possible ou envisageable, même pour les Jeux Paralympiques, que des valides puissent participer pour augmenter le nombre, et s'ils ont enfin, je sais que ça se fait de temps en temps, si on leur attribue un handicap, enfin s'ils se mettent dans le fauteuil, ça reviendra un peu.
Non, du coup ils font pas ça parce que c'est tellement encadré, enfin, faut avoir un handicap parce que le moindre muscle que les autres peuvent avoir, c'est toujours un avantage par rapport aux bras, par rapport aux mains, par rapport aux abdos. Donc là, faut vraiment que les personnes des catégories soient quasiment avec les mêmes mobilités. Donc c'est très important de garder, en fait, le paralympique pour les paralympiques, pour cette discipline et pour les autres d'ailleurs.
Oui, c'est clair. En plus, c'est vraiment, bah, du coup, j'imagine que quand on se met en mode compétition, on attend à ce que ça soit joué égal et que ça soit équitable et équilibré. J'ai une dernière question pour toi. Si tu pouvais faire passer un message à la radio, que ça soit pour les personnes valides qui ont peut-être des préjugés ou pour des personnes qui voudraient faire du sport et qui n'oseraient pas forcément à cause d'un handicap, ou peu importe. En tout cas, si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire pour le mot de la fin.
C'est vrai que la vie, elle ne s'arrête pas avec un handicap, et la reprise d'une pratique sportive est quand même très importante, parce que grâce à ça, on va aussi pouvoir travailler aussi notre mental, repousser nos limites, etc. Et ça nous aide beaucoup dans la vie quotidienne, la rigueur, accepter l'échec et puis savourer les réussites. Je trouve que même avant, j'avais ça, avant d'être en fauteuil dans ma pratique sportive, pour moi c'était important, ça m'apportait énormément de travailler sur ça dans les compétitions. Et c'était réussir un challenge dans cette compétition-là de sport pouvait m'aider, en fait, à moi m'épanouir aussi à côté de ça dans la vie, et voilà, prendre chaque petit obstacle comme un challenge plus que comme une fatalité. Donc vraiment, je conseille à tout le monde, évidemment, pour avoir une bonne santé, mais pour peut-être avoir un meilleur état d'esprit aussi, de faire du sport. Donc
bien, merci beaucoup, Oksana.
Are you the one who's on the radio station?
Quartier des Ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro?
Ça y est, j'ai quitté le gymnase des Hautes-Ourmes. Je voudrais tout d'abord remercier Régis et Oksana pour ce super moment que j'ai passé avec eux. C'était très convivial et très ouvert. Très motivant aussi d'assister à une séance de sport comme celle-ci. J'ai beaucoup apprécié et j'espère que vous aussi. Après une courte pause musicale, on se retrouve dans le studio de la radio avec Antoine, un autre athlète licencié au club handisport, mais qui s'entraîne avec des valides. Il a notamment été récompensé au palmarès de Rennes et est pressenti pour les Jeux Paralympiques en athlétisme. Pour la pause musicale, je vous propose de découvrir les goûts musicaux d'une habitante du quartier, tout de suite sur Quartier des Ondes.
Ouais, j'aime bien Lizzo. La chanteuse, c'est Lizzo. Et le titre, c'est... je crois que c'est Perfect. Ou You're Perfect, c'est pas mal. Enfin, surtout les paroles... Enfin, la traduction en français, quand on regarde, c'est sympa. Ben, genre, c'est... Ça parle qu'en fait, il y a besoin de... Enfin, c'est la signification, quoi. Genre, il y a personne... Il y a personne de parfait. On est comme on est, on fait ce qu'on peut. Et c'est bien comme ça, quoi. Woke up this morning to somebody in a video talking about something I posted in a video. If it wasn't me, then would you even get offended? Or is it just because I'm black and heavy? Y'all don't hear me though. I've been the same since I've been dropping slow on Bissonnet. Call up anybody I know and they will tell you that fame is pretty new, but I've been used to people judging me. That's why I move the way I move and why I'm so in love with me. I'm used to feeling
Quartier des Ondes, the voice of the street.
Quartier des Ondes, la voix des quartiers.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Quartier des Ondes, on se retrouve pour la suite de l'émission sur l'athlétisme et le handisport. Je suis en compagnie de Antoine Pro, bonjour.
Bonjour.
On dit bien pro comme
c'est ça?
C'est ça, pro. Ok, ouais. Super. Alors tu es étudiant à l'INSA et sportif de haut niveau en athlétisme, tu as maintenant, j'aurais dit 20 ans.
19,
19
dans ma
20e
année, ouais.
D'accord, ok, c'est ça. T'es né quand?
Décembre, donc...
Ah oui, donc on a encore un peu le temps avant d'arriver sur les 20 ans. si tu es avec nous aujourd'hui, c'est pour parler du sport et du handicap. On parlera bien un peu plus précisément tout à l'heure, mais tu as un handicap au bras droit, c'est
ouais,
ça?
Oui, c'est ça.
La naissance, que tu as eu à la naissance et qui t'empêche donc certains mouvements qui nécessitent que ton sport soit adapté.
Oui, c'est ça.
Tu viens d'une famille de sportifs, donc que le sport était une évidence un peu.
Ouais, c'est complètement ça. Ouais.
Tu as d'ailleurs été récompensé dernièrement au palmarès de Rennes pour tes performances en compétition.
Ouais, ça c'est une belle reconnaissance de la ville pour tout le club. C'était le club, la section sportive athlétisme du Handisport and Club qui a été récompensé. Vu que, on a réussi à faire pas mal de performances l'année dernière du coup, et donc c'était une belle reconnaissance. Ouais.
Il y avait deux athlètes avec toi qui ont été reconnus aussi.
Ouais, c'est ça, c'était Evan Thébault et Alexandre Désier. Donc un autre coureur, mais qui fait un peu plus du sprint. Moi, je suis plus demi-fond et Alexandre, c'est un lanceur de poids.
D'accord, ok, ça marche. Donc oui, pour toi, c'était, j'ai sous les yeux, champion d'Europe en U20 sur 1500 mètres.
Ouais, c'est ça.
Champion en saut en hauteur aussi.
Aussi, ouais.
et champion de France sur 1500 mètres en catégorie T38.
Normalement c'était 46, mais il y a une petite erreur. Mais
et une erreur dans les...
Ouais, okay. dans la catégorie, ouais.
Ça marche. Bah, d'ailleurs, ça va être l'occasion de rentrer un peu plus précisément, je pense, dans ton handicap, parce que les U20, les T38, c'est des catégories qui rassemblent les handicaps similaires ensemble, c'est ça?
Ouais, c'est ça. En gros, U20, bah, c'est under 20, donc c'est par rapport à l'âge, ça. Et après, bah, moi, je suis en T46, donc c'est la catégorie qui regroupe les amputés au niveau des membres supérieurs et les personnes qui sont assimilées aux amputés. Donc moi, bah, je ne suis pas amputé du bras, mais bah, mon handicap fait que bah, dans le comportement d'une course, je vais avoir les mêmes handicaps qu'une personne qui va être amputée, voire je serai peut-être même plus handicapé en fonction de si la personne est beaucoup handicapée ou pas.
D'accord, ok. Donc en fait, oui, c'est ça que j'avais eu peut-être un petit peu de mal à comprendre, c'est T46 pour tout. Enfin, T46, c'est ça? C'est, ça va être ta catégorie pour le saut en hauteur, ouais. Pour le 500 mètres, ouais, le 1500 mètres.
Ouais, exactement.
D'accord, ok. Et dans quelle mesure, du coup, il est adapté ton sport dans cette catégorie?
Quand on court, bah là, par exemple, si je prends l'exemple des championnats de France qui ont eu lieu le week-end dernier, bah, il n'y a pas assez de personnes au niveau national pour pouvoir faire une course. On est tous de la même catégorie. Donc, on court tous ensemble avec des catégories différentes. Et après, bah, hop, on arrive après la course. Et en fonction du temps qu'on a fait et de notre handicap, ça va être retranscrit en un certain nombre de points. Et donc, c'est ça qui va décider au final du classement. Donc, je peux gagner la course, mais au final, je peux ne pas avoir le titre parce que bah, mon handicap fait que ça rapporte un peu moins de points qu'un autre handicap. Mmh. Donc, si l'écart de temps n'est pas assez grand, bah, je ne gagnerai pas la course, quoi.
D'accord. Donc, et tu les trouves juste, tes barèmes ?
Pour moi, oui, c'est juste parce que y en a qui sont vraiment beaucoup plus handicapés que moi. Et ça, je le vois vraiment bah, sur une compétition comme ça. Tu vois tout le monde qui a un handicap, tu vois le tien, tu te dis, bon, bah, y a une différence quand même.
Ouais, il y a pas de mauvaise ambiance de la part de certains, il y a pas de ça qui règne dans ces.
Non, pas du tout. Et en fait, après, bah, les points, ils sont fixés, la table de cotation, en fonction du record du monde dans la catégorie. Donc en gros, si bah, tu as un mec qui a été super chaud, qui a mis un record du monde de fou dans ta catégorie, bah, tu vas rapporter moins de points qu'un autre bah, qui aura fait un record du monde moins élevé. Quoi.
Ouais, j'aime bien cette façon de penser.
C'est, ouais, bah, c'est
tu
ça,
peux avoir coup. Presque le seum que quelqu'un soit trop
ouais,
fort.
Bah, c'est ça, c'est un peu ça du coup.
Et, est-ce que ça arrive du coup parfois, par exemple, quand il manque du coup de sportifs qui aient des valides qu'on... Alors en compétition du coup, je sais pas, mais je sais que ça peut arriver dans les entraînements qu'on mette des valides qu'on handicape volontairement pour remplir peut-être les compétitions ou...
Normalement, non. Enfin, j'ai jamais vu ça. Après, c'est vrai que moi, du coup, j'ai une licence en handisport et une licence en valide. Donc, la plupart de mes entraînements, je les fais avec mon club valide. Donc, comme ça, ça me permet de courir avec des gens de mon niveau qui ne soient pas handicapés ou qui soient handicapés. Ça ne changera rien. C'est vraiment, bah, à l'entraînement, on cherche juste pouvoir s'entraîner, pouvoir s'améliorer, aller s'amuser avec les copains aussi, c'est ça. Et après, en compétition, non, normalement, il y a des règles qui sont vraiment fixées par rapport à ça. L'Organisation mondiale de parathlée, elle a fixé les règles. Donc, je sais qu'on peut parfois mettre des lièvres valides sur les courses handi, mais ça arrive très rarement parce que, bah, du coup, l'organisation qui gère tout ça, elle a des yeux un peu partout. Donc, faut pas se faire prendre, entre guillemets, mais non, on handicape pas des valides pour les faire courir avec nous. Mais c'est vrai que des fois, pour les entraînements, pour leur faire comprendre que ouais. Moi, j'ai un handicap, ça peut être marrant, tu vois. Tu leur dis, les gars, vous n'utilisez pas votre bras droit et vous voyez ce que ça fait. Et là, ils se rendent compte qu'il y a une différence de par rapport à d'habitude. Quoi.
Carrément, je pense que dans un point de vue sensibilisation, c'est pas mal de faire ça. Mm-mm. Notamment dans les écoles, je pense qu'il y a un truc à jouer comme ça. Et puis en plus, je pense qu'il y a pas mal de sports qui sont adaptés et qui en deviennent même des sports à part entière. Je pense les sports en fauteuil, souvent, je pense que même pour quelqu'un de valide, ça peut être hyper amusant d'en faire.
Ouais.
Donc, d'ailleurs, pour revenir un petit peu plus à ton handicap, est-ce que tu peux en parler depuis combien de temps tu l'as ? Enfin, on a dit que tu l'avais depuis la naissance. Ouais. Voilà.
Alors, mon handicap, du coup, c'est de naissance. On m'a tiré sur le bras pour me sortir du ventre de ma mère. Donc voilà, je voulais rester à l'intérieur. Et puis, comme j'étais un gros bébé, compliqué de sortir. Donc on m'a tiré sur le bras et donc le handicap c'est liaison néonatale du plexus brachial droit. Voilà pour le terme compliqué. Et tout ça juste pour dire que j'ai moins d'amplitude au niveau du bras. Par exemple, je peux lever le bras gauche complètement. Si tu vois, je veux poser une question, je lève le bras gauche. Mais le bras droit, je ne pourrais pas le lever au max. Donc c'est des mouvements que je ne peux pas faire. C'est pareil, ouvrir la paume, je ne peux pas ouvrir la paume au niveau du bras droit. Et donc à 6-7 ans, on m'a opéré pour que je gagne en amplitude, parce que vraiment quand j'étais jeune, mes parents m'ont raconté des années plus tard que j'étais un peu comme Jamel Debbouze, tu vois, mon bras, je l'utilisais pas, il était en train d'être balancé un peu partout, dans tous les sens, je l'utilisais vraiment pas. Et donc on m'a opéré justement après pour que je gagne en amplitude, et après j'ai eu du kiné très jeune, et on me forçait entre guillemets à utiliser mon bras pour justement le remuscler, parce que du coup, comme je ne l'utilisais pas, il est atrophié, etc. Donc, il y a tout ça. Et puis, maintenant, j'essaye de l'utiliser vraiment le plus possible, parce que je sais que du coup, il y a un écart vraiment entre les deux bras, que ce soit en force pure et dure. Par exemple, si je veux soulever un poids avec le bras gauche, ce ne sera pas le même poids forcément avec le bras droit, parce que forcément, je n'ai pas du tout les mêmes aptitudes. Et puis, y a une fatigue aussi musculaire qui fait que, par exemple, si je fais une séance dure ou une séance longue, au bout d'un moment, ça va commencer à me tirer le bras, surtout au niveau des trapèzes et de l'épaule. Donc, c'est pour ça que, avec le coach, il faut voir aussi, là, j'ai mal, donc on va faire un petit peu moins. Là, ça va, donc on peut continuer. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter, on va dire, les séances et un peu la vie aussi quotidienne en fonction du handicap, quoi.
D'accord. Oui, donc vu que tu pousses un peu ton corps dans ses retranchements dans ta pratique sportive, forcément il faut que du coup ton bras droit suive et donc l'entretenir. Ok. Est-ce que le sport du coup t'aide à mieux vivre ton handicap?
Ouais, ça a toujours été une part de ma vie entre guillemets, et maintenant que ça fait vraiment partie de ma vie quotidienne, vu que quand on est sportif de haut niveau, c'est des entraînements quotidiens voire bicotidiens, donc forcément ça m'aide à me sentir libre entre guillemets, parce que c'est ce que j'aime bien dans la course, c'est on est vraiment libre, on n'a pas de contraintes, j'ai juste besoin d'une paire de chaussures et un peu de beau temps, et puis voilà, on peut aller courir, même partant de pluie on va courir aussi. Mais du coup, c'est vraiment ça permet de poser le cerveau après une journée de cours, etc. Ça permet de décompresser. Et du coup, quand je cours, je ne pense vraiment pas à mon bras. Je suis juste là à penser à courir. S'il y a une séance à faire, je fais la séance. Et peu importe que j'ai un handicap ou pas, on va dire, pour moi, c'est je cours et c'est juste ça, quoi.
On va faire bientôt une petite pause musicale avec le morceau Run de One Republic. C'est un morceau que tu as choisi. Est-ce que tu peux me parler du lien avec ta pratique sportive?
C'est un morceau que j'aime bien parce que je trouve qu'il y a un rythme dedans qui me donne vraiment envie d'aller courir. Ça me donne vraiment l'envie de liberté. C'est ce que je recherche aussi. Et puis ça raconte un peu la chanson, le cycle de la vie. Et donc, qu'il y ait des galères, que tout se passe bien, au bout d'un moment, forcément, on peut rencontrer un mur et faut mettre en place des solutions pour pouvoir passer au travers. Et donc, c'est ce que j'aime bien, relever les petits défis de la vie quotidienne, c'est ce que j'aime faire aussi.
Continuer d'aller de l'avant.
Exactement.
Eh bien, tout de suite, One Republic, Run de One Republic sur Quartier des Ondes. As a young boy living in the city, all I did was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, 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 you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, 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 run.
Run, run, run. Run, run, run.
When I was a young kid living in the city, all I did was pay, 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 pay. Every single dime that good Lord give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low, chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, 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 run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. And run, run, run. Yeah, one day, well, the sky might fall. Yeah, one day I can lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings, look to the rising sun. And run, 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 run.
C'était Run de One Republic sur Quartier des Ondes. On parlait de ça, en fait j'ai tilté que là pendant la musique, mais tu m'as dit que tu faisais des entraînements quotidiens, voire bi-quotidiens. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah, du coup, c'est-à-dire que je m'entraîne une fois par jour, on va dire, c'est un minimum, quand on est en période d'entraînement. Et ça peut aller même jusqu'à deux fois par jour, du coup, pour bi-quotidien. Donc, c'est l'avantage un peu de la course à pied, c'est que un entraînement, ça va être juste, par exemple, un footing. Même si c'est juste un footing d'une demi-heure, ce sera déjà ça de pris. Et puis, après, ça va des séances parfois spécifiques sur la piste où on met les pointes ou des séances de côte pour renforcer musculairement, mais donc un peu naturellement, de la PPG, etc. Et donc, on a vraiment un large panel de séances possibles et inimaginables. Donc, les coachs, parfois, ils aiment bien faire un peu des trucs extravagants. Donc, c'est pour casser la routine de l'entraînement. Et donc, ouais, c'est ça, bi-quotidien, donc le matin, le soir, sinon le midi, après-midi. Donc,
t'as été courir ce matin, là ?
Là, pas ce matin, vu que là, du coup, comme c'est en retour de compétition et je fais une petite coupure de 3 jours pour régénérer un peu le corps avant les grosses compétitions, une grosse compète qui arrive dans 3 semaines. Donc là, j'irai courir cet après-midi.
Et c'est vrai que la course, il y a vraiment ce truc de s'évader et tout ça. Ça t'a pris quand, toi, la course ?
Déjà très jeune, quand j'ai commencé le sport, je faisais du foot. Donc il y a toujours la course un peu dans le foot. Et arrivé au collège, j'ai commencé l'AS athlétisme dans mon collège. Donc depuis la 6e jusqu'à la 3e, j'ai fait l'AS. Et arrivé en 3e, j'en avais un peu marre du foot. Donc j'ai décidé de me mettre à l'athlétisme. Et du coup, j'ai pris d'abord une licence dans un club valide parce que je ne savais pas encore que les clubs handisport, ça existait. Donc après, de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes qui m'ont vu courir avec mon handicap et qui m'ont dit « si tu veux, ça existe des clubs handisport ». Et donc après, hop, j'ai commencé à prendre ma première licence en handisport. Et donc, de fil en aiguille, après, hop, on fait les compétitions nationales. Après, hop, on fait des compétitions internationales et on arrive à être champion d'Europe U20 à 2500. Donc, c'est vraiment un parcours incroyable.
Tu m'avais dit qu'il y avait un groupe dans ton premier stage en e-sport qui avait un peu changé ta perception.
Ouais, c'est exactement ça. Donc, quand j'ai rencontré la personne, elle me parlait du coup des stages JAP. Donc, c'est jeunes à potentiel. Donc c'est au niveau de la région et donc ça a eu lieu à Dinard, donc c'était mon année de seconde, je crois. Et du coup, j'arrive et je ne m'attendais pas à voir autant de personnes déjà, et des gens de tous les âges, donc jusqu'à 17 ans, donc de 17 à 17 ans, et avec plein de handicaps différents. Et moi, je ne m'étais jamais retrouvé avec autant de personnes, entre guillemets, avec des handicapés, quoi. Et ça m'a vraiment changé ma perception, parce que pendant une semaine, tu n'es qu'avec ces gens-là et tu vois un peu comment eux, ils vivent aussi leur handicap. Est-ce que c'est différent de toi ? Est-ce que ça se rapproche de toi ? Et on est tous autour de notre pratique sportive. Donc, on se rend compte que le sport, ça aide vraiment dans la vie de tous les jours. Et donc, ça m'a vraiment changé ma vision déjà sur le handicap et aussi sur le sport en général, parce que j'avais un peu ma vision du gars qui était que en valide. Et là, maintenant, du coup, j'ai ma vision du gars qui fait aussi du handisport à côté. Et donc, c'est super.
Tu fais des compétitions en valide aussi encore aujourd'hui ?
Ouais, compétition en valide. Et c'est, Bah déjà, on retrouve un peu plus de concurrence parce que bah, du coup, mon niveau en valide, c'est un niveau correct, on va dire. Et le niveau en e-sport, bah, du coup, c'est un niveau international. Et donc c'est ça, ça permet de courir aussi bah, avec des gens, d'avoir plus de monde pour chercher la meilleure performance possible. Et souvent, bah, les compétitions, ça permet de, bah, de... Dans la préparation, le coach, il se dit, bah, hop, tu peux faire cette compétition-là parce qu'il bah, va y avoir du monde. Tu peux aller chercher une belle perf et ça va, bah, ça va te faire plaisir aussi de courir avec tes copains. Donc forcément, bah, moi, je suis toujours OK. De toute façon, pour faire une compétition, j'ai un esprit de compétiteur. Donc ça me fait toujours plaisir de faire des compètes. Et avec les valides, justement, ça permet vraiment d'aller chercher la performance qu'on peut trouver en handisport, mais c'est parfois plus compliqué quand même.
Ok. Est-ce qu'il y a un truc plus de loisirs parfois dans l'handisport ou en compétition, ils sont vraiment quand même compétiteurs?
En compétition, on est quand même vraiment axé vers la performance. Après, je sais qu'il y en a, ils ne font pas ça de leur journée non plus. Et bah, par exemple, sur les championnats de France du week-end dernier, on voit qu'il y en a qui sont dans des structures, qui font ça bien professionnellement et tout. Et t'en as d'autres, bah, c'est un peu pas loisir, mais ça leur aide à passer du temps dans la semaine. Et on voit qu'il bah, y a des écarts au niveau de la performance, et c'est ça qui fait qu'il bah, y a plus ou moins un différent niveau de pratique, quoi.
Parce que je sais que les footeux du club handisport qui font de la compétition étaient pas mal compétiteurs de ce qu'on me racontait. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'en fait, au final, si c'est hyper compliqué. Toi, tu vas en reparler, mais tu me parlais de l'aménagement de ton école. On imagine bien que, bah, en fait, pour être athlète au niveau, il faut beaucoup de temps passer. Ouais, et puis, bah, là, t'es encore un peu étudiant. T'as la chance d'avoir ton nom d'école qui s'adapte, mais parfois, bon, bah, il faut avoir un boulot, gagner ouais, de l'argent, ça, des enfants à nourrir.
À côté, bah, j'ai de la chance du coup d'être encore étudiant. Donc bah, j'ai l'école à côté qui me permet de pouvoir aller à mes compétitions, de pouvoir aménager mon emploi du temps pour que je puisse m'entraîner. Donc ça, je les en remercie et c'est un peu aussi pour ça que j'ai choisi cette école-là, parce que je savais que ça allait pouvoir me permettre tous ces aménagements. Mais c'est vrai que bah, y a des personnes, quand je me rends compte, bah, ils peuvent pas forcément avoir, ils ont pas les mêmes chances que moi, ils sont dans la vie active, donc ils ont un boulot. Par exemple, bah, pour prendre sur un week-end de compétition, bah, ils seront obligés de prendre des RTT pour pouvoir venir faire la compétition. Et donc, bah, moi, j'ai cette chance-là. C'est un week-end, donc je vais juste avoir des heures de révision en moins. Mais voilà. Et du coup, ça me permet vraiment bah, de pouvoir être consacré à 100% dans ma pratique sportive. Et c'est ça qui est vraiment cool, parce que je sais que je ne vais pas passer à côté de quelque chose que si j'étais vraiment bah, 100% études. Là, ce serait compliqué de pouvoir tenir cette charge d'entraînement, ce serait même impossible, parce que bah, les 10 entraînements par semaine, il faut pouvoir les caser, c'est du temps. Donc forcément, l'école, ça me permet ça et c'est vraiment super.
Puis l'INSA en prépa, c'est pas non plus hyper simple.
Ouais, c'est ça, donc c'est une prépa, donc forcément ça demande du taf et... l'aménagement d'emploi du temps, ça me permet de pouvoir concilier les deux, même si parfois bah, je privilégie quand même un peu plus l'entraînement. Donc après, bon, les notes, normalement, elles sont toujours, j'arrive toujours à rester correct. Et si je vois que bah, y a une baisse, bah, je vais me consacrer un peu plus. Je vais dire à l'entraîneur, non, là, je peux pas, j'ai un gros contrôle la semaine prochaine, donc il faut que je passe un peu plus de temps.
T'arrives à prendre des sacrifices quand même sur l'athlétisme parfois.
Oui, ouais, ouais, c'est ça, oui.
Mais c'est vrai que c'est fou en fait. Du coup, il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que tu sais s'il y en a beaucoup d'autres dans ton cas qui font du sport de haut niveau à l'école?
Ouais, à l'école, bah, déjà rien qu'à l'INSA, il y a une section qui regroupe tous les sportifs de haut niveau. Donc c'est vraiment une volonté de l'école de chaque année recruter une vingtaine à peu près, voire un peu moins de sportifs de haut niveau. Donc bah, pour leur permettre de pouvoir aménager et de continuer des études aussi de haut niveau à côté.
Mmh. Ouais, parce que pas l'organisation même pour l'école, c'est pas si simple que ça, en soi, à mettre en place.
Ouais, vu que bah, il faut quand même qu'on arrive à avoir notre diplôme, vu que c'est ça le but de l'école, c'est qu'on soit diplômé à la fin. Et donc c'est vrai que bah, on est dans mon année, on est une vingtaine d'athlètes, donc il y a tout sport confondu. Et donc y en a qui décident d'aménager, il y en a qui décident de ne pas aménager. Donc après, ça, c'est un peu en fonction de ce que veut chacun, ouais. de ce que va demander sa pratique sportive à côté. Vu qu'il y en a, ça va demander peut-être moins d'heures d'entraînement que d'autres. Et après, ça, en fonction aussi des souhaits de chacun, parce que du coup, si tu aménages pour faire en 3 ans ce que tu fais normalement en 2 ans, bah forcément, si tu te rajoutes une année de plus d'études... Ouais. Donc,
si t'es pas trop études, ouais, ça fait un peu chier.
Donc voilà, après, je sais que ça concerne juste l'école. Après, pour les autres études, entre guillemets, là, je suis en compétition. Il y a un autre jeune qui est un peu plus âgé que moi, qui fait des études à Sciences Po. Donc là, il n'a pas la même chance que moi. Enfin, il peut avoir le droit à des périodes où il peut partir en stage, etc. Mais l'école ne va pas lui accorder tout le temps. Comme il arrive en master, bah forcément, il faut après, ça demande quand même beaucoup de travail, quoi.
Il y a Solène Jarry, je vois qui a dû faire des trucs comme ça, des assez longues études et qui est championne, là, qui est chimiste et championne du monde d'anti-escalade. Je trouve ça fou à chaque fois. Je me dis, est-ce qu'on a l'habitude un peu à la télé, forcément. Je pense avec les autres, tu vois un sportif qui gagne des compétitions mondiales. Tu t'imagines pas forcément tout de suite qu'il a un métier à côté.
C'est ça, tu fais quelque chose à côté. Donc
Et toi, est-ce que tu as déjà pensé à être rémunéré pour ta pratique sportive ?
Rémunéré, je pense que c'est vraiment un grand mot, parce que même si on arrive dans des années où le handisport, il a de plus en plus de visibilité, et ça, forcément, c'est mieux si on veut pouvoir vivre un jour de ça. Il faut avoir de la visibilité. Après, les sponsors, ils choisissent un valide, un handi. Donc, c'est eux qui peuvent décider un peu de ta carrière. Parce que si t'es un sponsor, forcément, après, ça t'aide pour les déplacements, pour les équipements, etc. Donc, c'est vraiment une aide qui n'est pas négligeable. Après, pouvoir en vivre, rien n'est jamais sûr. On n'est pas à l'abri d'une blessure ou de n'importe quel autre événement. Donc, en vivre, je pense que ça peut être compliqué. Même pour les meilleurs athlètes valides, en athlée, des fois, ils sont à la recherche de sponsors alors qu'ils ont un niveau de fou. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Les gars, ils font ça que de la journée et ils n'arrivent pas à avoir de sponsors. Comment moi, je pourrais en avoir? Donc, c'est pour ça. Après, il faut faire... faut envoyer son CV, il faut des fois y aller au culot pour dire est-ce que vous ne voudriez pas me sponsoriser, m'offrir par exemple 50 euros de bon d'achat ou ce genre de truc. Moi, j'ai eu de la chance cette année, donc j'ai pu accueillir mon premier sponsor fin d'année dernière. Et je les en remercie énormément pour ça, parce que du coup, ça me permet de payer mes déplacements, de payer mes tenues, de payer mes chaussures aussi, parce que c'est toutes des dépenses qui s'accumulent, et j'ai mes parents qui sont là pour m'aider, mais avoir l'aide du sponsor, ça m'aide forcément beaucoup plus, parce que je me dis que je suis plus trop dépendant de mes parents, et que je peux faire ma vie tout seul, entre guillemets, avec le sponsor, et grâce à ça, ça me permet de financer les compétitions, financer les stages que j'aurais pas fait forcément auparavant, parce que ça coûtait une certaine somme et que je pouvais pas forcément débourser, quoi.
C'est clair, on voit de plus en plus un peu plus de marques en tout cas qui sponsorisent des athlètes en e-sport, mais c'est pas non plus énormément le cas. Et puis il faut un sport qui soit pas mal vu. C'est sûr que quand le foot, on sait que ça génère plus d'argent que le handball par exemple, le handball c'est pas mal aussi. Et donc ta réponse c'est plus avec un sponsor, ok, mais c'est plus une aide à la pratique.
Ouais, c'est plus une aide à la pratique qu'un métier à part entière, quoi.
Et est-ce qu'on peut imaginer que ça change encore, tu penses ?
Pour moi, la société, ça va évoluer de plus en plus. Après les Jeux de Paris, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être vraiment mises en place. Après, c'est ça, il faut garder l'héritage qu'on aura après les Jeux. C'est pas, l'année des Jeux, on va sponsoriser, et puis après, on fait plus rien. Il faut continuer après pour rester dans la même dynamique et que le mouvement prenne de l'ampleur, et si ça a plus d'ampleur, ça attirera plus de monde et c'est une boucle qui fera que on pourra peut-être en vivre un jour, quoi.
Et parce que c'est les en fait dans le foot, moi après je suis peut-être un peu nié là-dessus, mais c'est les clubs qui rémunèrent leurs joueurs du coup. Donc il faut que le club soit déjà friqué.
Faut que le club soit friqué. Après, bah, du coup, en handisport, c'est pas du tout. Enfin, même en athlétisme en général, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ça va être, bah, du coup, des sponsors qui vont donner soit de l'argent à un club qui va après redistribuer, soit de l'argent directement à l'athlète pour qu'il puisse s'autofinancer après, bah, pour les tenues, etc. Mais du coup, non, c'est pas du tout la même chose que le foot.
Et du coup, tu parlais des jeux. Qu'est-ce que tu penses des Jeux paralympiques ?
Bah, pour moi, c'est franchement une très bonne chose. Rien que déjà dans l'histoire des Jeux paralympiques, c'est un gars qui était athlète avant la guerre, qui a été blessé et qui s'est rendu compte que bah, la pratique du sport, ça aidait vraiment bah, les soldats qui avaient été blessés après la guerre. Et du coup, bah, hop, il a fait une compétition et de fil en aiguille, c'est devenu les Jeux paralympiques. Et ça véhicule des valeurs qui, pour la société, qui je trouve sont extraordinaires. Bah, le dépassement de soi, le gars il a un handicap, il arrive à faire ce que ferait quasiment un valide. Donc c'est vraiment quelque chose qui me surmotive. Pouvoir y participer en plus à Paris, ce serait vraiment incroyable. Donc voilà, maintenant c'est un objectif, il faut mettre les moyens en place.
Est-ce que tu es pressenti pour ça ?
Bah, c'est un peu... Ouais, c'est ça. Cette année, il y a les championnats du monde à Paris. Donc si j'arrive à y participer, je pense que j'aurai déjà un pied de mis pour les Jeux. Vu que déjà le championnat du monde, c'est vraiment la deuxième compétition derrière les Jeux. Donc forcément, ça donne envie. Et bah, si tu as participé au championnat du monde, logiquement, tu devrais pouvoir participer aussi aux Jeux. Donc forcément, c'est des objectifs, des étapes. Ça tombe bien, entre guillemets, que ce soit les championnats du monde avant les Jeux et pas l'inverse. Donc ça me laisse, on va dire, un peu plus de marge de manœuvre. Et donc, ouais, franchement, y participer serait un truc de fou, quoi.
Ça fait voyager, du coup. Tu me parlais des points positifs en off. Donc, t'as pu voyager où avec l'athlétisme ?
Bah, déjà, un peu découvrir toute la France, vu que t'as des meetings internationaux un peu partout. Bah, là, j'étais à Metz le week-end dernier. Des fois, on était descendu du côté de Clermont, carrément dans le sud, carrément à Marseille aussi. Donc déjà, ça fait voyager dans toute la France. Et puis bah, pour les Jeux européens de la jeunesse, donc quand j'ai gagné mon titre européen l'été dernier, c'était en Finlande, donc premier voyage à l'international. Donc c'est découvrir un pays aussi, découvrir la culture du pays aussi, et complètement dépaysé quand tu arrives là-bas, c'est fou, quoi.
Tu prends le temps un petit peu de visiter
Bah, là, je sais qu'on était assez loin de la capitale. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps d'aller visiter. Mais bah, moi, du coup, quand j'allais faire mes entraînements là-bas, vu qu'on est resté une semaine là-bas, donc quand je suis arrivé, bah, j'allais courir un peu à droite, à gauche pour explorer. Et franchement, le dépaysement était complètement extraordinaire. Ça changeait complètement de courir dans Rennes ou même dans les autres endroits de France. Et donc voilà, la Finlande, c'est vraiment un pays extraordinaire aussi. Donc, c'est super.
Ça a l'air, tous ces pays du nord de l'Europe m'intéressent beaucoup.
Ça donne envie, ouais.
Ouais, tous ces paysages incroyables. Mm. Bah, du coup, en parlant de voyage, tu nous as donné un film que tu apprécies qui est en lien avec ta pratique sportive et ou ton handicap. C'était quel film ?
C'était Avatar.
Le 1, du coup, t'es sponsor peut-être par Avatar 2, ou il y a une autre raison ?
Déjà, c'est un de mes films préférés. Pas forcément parce que c'est relié à ma pratique, etc. C'est juste un très bon film que j'apprécie. Et puis, bah, dans l'histoire, le gars, il est handicapé. Et puis, hop, après, il arrive dans un avatar. Il peut courir, il peut bouger alors qu'il est en fauteuil roulant. Donc, c'est futuriste. Et on se dit, bah, ça pourrait peut-être avoir lieu un jour. Et bah, moi, je me retrouve un peu dans le gars qui a un handicap et qui peut faire quand même ce qu'il veut à côté, qui peut aller, hop, courir. Et bah, explorer la nature, etc., dans des paysages de fou, justement. Donc c'est un peu ça aussi, le parallèle qui est possible de faire avec la course à pied, et c'est vraiment super.
Ça t'est déjà arrivé dans un rêve de te voir avec un corps différent ?
Je me demandais, dans un univers parallèle, tu vois, si jamais il y avait un moi qui était vraiment valide avec ses deux bras, qu'est-ce que ça ferait ? Est-ce qu'il irait plus vite ? Est-ce qu'il irait moins vite ? Est-ce qu'il aurait eu le même parcours, etc. Mais bon, après, je me dis que c'est ma vie et je la fais comme elle vient. Handicap, pas handicap, ça fait partie de moi maintenant, ça fait qui je suis. Et donc, je ne regrette pas d'en avoir un. Ça m'a forgé. et ça m'a donné ma personnalité, donc je suis très content comme ça, quoi.
Tu n'en veux pas au médecin qui a tiré trop fort.
Non.
Et du coup, à ce sujet, tu as déjà fait face, ou fais-tu face à de la violence ordinaire ?
Non, j'ai jamais connu de harcèlement ou de violence par rapport à mon handicap. Je sais que j'ai eu de la chance par rapport à ça parce que j'ai connu des gens qui ont été victimes de ça, justement, des moqueries, parfois aussi même de la violence à leur égard. Donc, moi, j'ai eu de la chance de jamais avoir connu ça. Donc, franchement. Enfin, faudrait que le regard de la société change, mais c'est surtout dans les jeunes âges que ça arrive. Donc, moi, je sais que quand ils m'avaient raconté ça, c'était ça leur était arrivé en primaire. Donc, forcément, quand on est petit, on n'a pas forcément le même regard que quand on est adulte. Et donc,
on est très méchant parfois.
Ouais. C'est ça. Donc, ça leur avait resté un très mauvais souvenir quand même.
Et donc, entre potes, vous pouvez en rigoler ? Est-ce que ça, de ton handicap, par exemple, ça t'arrive de recevoir des vannes ?
Ouais, des fois, on se vanne quand même. Mes parents aussi, ils se permettent de faire des vannes, mes copains aussi. Forcément, on dédramatise aussi un peu la situation parce que j'ai de la chance dans mon handicap parce que je suis moins handicapé qu'une personne, par exemple, en fauteuil roulant. Je me considère moins handicapé qu'elle. Et donc, après, forcément, on dédramatise un peu. On en rigole et parfois, même quand on est entre gars et anti-sport, on se fout un peu de la gueule des autres parce que justement, on sait qu'on peut se permettre de faire ça.
Et oui, c'est coup, bienveillant.
C'est ça, c'est que c'est de la bienveillance. Ouais. Et du coup, on se marre, on se fout de la gueule des autres et c'est franchement des très bons moments à passer aussi quand même.
C'est vrai qu'il y a le sport pour aider, mais l'humour aide beaucoup. J'ai ça dans mon entourage aussi. Sur une personne qui a un handicap mental et physique. Et en fait, ça rigole beaucoup, c'est hyper accepté.
Ouais, complètement.
Et
l'humour,
et je crois que ça aide aussi la famille à s'ouvrir et tout.
Ouais, complètement.
Et s'il y avait un changement à la société à faire par rapport à ça, est-ce que tu en vois un ?
Du coup, c'est ce dont on a parlé un petit peu, ce serait pour moi un changement au niveau de l'école. Il faudrait, par exemple, faire plus de sensibilisation auprès des plus petits. Pour leur dire que peut-être que cette personne est différente parce qu'elle a un handicap, mais au final, elle reste comme vous, elle va à l'école. C'est pas parce qu'elle a un handicap que il faut forcément se moquer d'elle. Il y a aucune raison de se moquer d'elle, etc., etc. Faire plus de sensibilisation pour changer déjà le regard des plus jeunes. Et comme ça, quand ils grandiront, ils auront déjà un autre regard. Et après, ils apprendront ça à leurs enfants, etc., etc. Il faut que ça continue comme ça, quoi.
C'est clair, je pense qu'il y a pas. On parle beaucoup de sensibilisation, de prévention aujourd'hui, et j'ai pas toujours l'impression que ça soit le cas, ou que ça soit pour les drogues, plein de choses.
Ouais.
Et parce qu'on voit bien que c'est la jeunesse qui fait le monde de demain.
Ouais, complètement. Ouais.
Et voilà. Avant de finir, est-ce que tu aurais, quels sont tes objectifs ? On en a parlé un petit peu, mais si tu peux les rappeler.
Il y a un gros objectif, on va dire dans 3 semaines, c'est le meeting international de Marrakech. Donc là, ce sera ma première sortie à l'international de cette année, donc ce sera en extérieur sur 1500 mètres, donc avec pour objectif de déjà faire un bon chrono pour me qualifier pour les mondiaux. Donc il faudra être dans le top 12 mondial pour pouvoir être pris. Et après, du coup, il y aura quelques meetings comme ça nationaux qui ponctueront la saison jusqu'aux mondiaux. Donc les mondiaux, c'est du 8 au 17 juillet 2023 à Paris, au stade de Charletti. Donc j'espère que ce sera l'objectif final de la saison. Et puis après, forcément, il y a les Jeux paralympiques à Paris, à la maison. Donc forcément, je donnerai tout pour y participer. On n'a pas encore eu les modalités de qualification pour les Jeux, mais déjà, je vais vraiment me concentrer cette année sur les championnats du monde.
D'accord, merci. Eh bien, est-ce que tu as un dernier message ?
Non, pas de message en particulier.
Eh bien, on va pouvoir se laisser sur le dernier. Merci beaucoup pour ton temps.
Et merci de m'avoir contacté, vu que ça permet vraiment de promouvoir aussi le handisport. L'athlétisme aussi, donc...
C'est carrément le but qu'on a avec du coup le club handisport juste à côté de chez nous, là, au gymnase des Hautes-Ourmes, de faire le tour un peu de toutes les pratiques et puis d'aller rencontrer les personnes qui pratiquent ces sports. On se laisse avec le son Ma Réalité de Hamza. Bon là c'est un petit choix personnel, j'avais envie, voilà, c'est sorti tout récemment.
Ouais, très bon choix.
Merci beaucoup. Je te souhaite bon courage et bonne chance. Merci. J'espère que tu arriveras à réussir tes objectifs, à les accomplir. Et puis aussi pour l'INSA, parce que c'est pas simple.
Merci beaucoup.
Jamais fait, on est pour le gain car on n'a jamais lieu. Hey, big step, pour que tout s'arrête, faudrait que Dieu m'arrête. Et depuis le temps que j'entends ces voix résonner dans ma tête, fuck tous ces fils de pute et ceux qui roulent avec eux. Un tas de bénéfices, donc j'suis soupçonné. Belle que c'est bitch, elle va te consommer. J'te marcé de chacun pour le risque, oh non, oh, no. J'ai pris cette life, sale, sale, sale. Et j'te veux seulement quand je tease la night. Elle sort les métaux pour la maille, oh my. J'ai pris la night, wow, wow, wow. Je me souviens de toutes ces nuits à regarder le ciel, en me demandant si quelqu'un m'entendait. En vrai c'est tout ce que j'attendais, la vie de ma mère. J'ai grandi dans la violence, avec un joint de bœuf j'ai appris à la romancer. À 200 dans ma tête, pistole dans ma chambre. Ils vont te laisser tomber quand ils n'auront plus rien à prendre. Je vais venir avec un métal, on verra si je suis tendre. J'ai plus grand chose à dire, encore moins de choses à prouver. Ceux qui veulent me nuire, ils savent où ils peuvent me trouver. Ce n'est que ma réalité, B-O-B-O-X réalité. Un tas de bénéfices, donc j'suis soupçonné. Belle que cette bitch, elle va te consommer. J'te marcie de chaque en vaut le risque, oh no, no. J'ai pris cette life, sale, sale, sale. Et j'te veux seulement quand je tease la night. Sans les métaux pour la maille, oh my. J'ai pris la night.